Les chrétiens ne sont pas nombreux, c'est vrai. Ils sont surtout concentrés à Istanbul. C'est là que vivent entre 75 et 80% des chrétiens de Turquie. Je ne peux pas dire qu'il y a des difficultés particulières. Il y a des difficultés administratives, plutôt, oui. Mais avec la population, personnellement, et ceux que je connais n'ont pas eu de problème.
Est-ce que, selon vous, une entrée de la Turquie dans l'Union européenne pourrait avoir des retombées positives dans disons, les rapports qu'a l'Occident avec le monde oriental?
Ah oui, certainement. Cela ferait une espèce de pont entre l'Occident et l'Orient, et qui serait utile, je crois, pour les deux. Et même pour la Turquie également. Elle aurait un rôle beaucoup plus important au point de vue politique international.
Alors, revenons donc à cette visite de Benoît XVI en Turquie. Est-ce que les catholiques réagissent à l'annonce de cette visite ou est-ce qu'ils restent, disons, discrets?
Ils sont certainement heureux, parce qu'ils attendaient ça depuis quelque temps, d'avoir la visite du pape, mais en même temps, bien sûr, ils sont très discrets. Ils ne le montrent pas trop extérieurement.
Je suppose que vous avez connu les visites des prédécesseurs de Benoît XVI, à savoir les visites de Paul VI et de Jean-Paul II.
Oui, toutes les deux.
Et quels sont vos souvenirs?
L'atmosphère avant la visite était tout à fait différente. Je me rappelle très bien quand c'est Paul VI qui est venu en 1967, au mois de juillet. La presse était très heureuse du fait que le pape vienne visiter la Turquie. Avec Jean-Paul II, c'était moins parce que la visite n'était pas préparée longtemps. Elle était faite trop vite. Même pas deux semaines avant son arrivée, on avait annoncé officiellement la visite. Tandis que maintenant, celle de Benoît XVI était annoncée depuis très longtemps, et donc on a eu le temps de se préparer, et il y a maintenant une foule de publications pour et contre, bien sûr. Il y a ceux qui sont heureux et qui pensent que la Turquie devrait profiter de cette visite, d'abord pour remettre les choses en place au point de vue relation avec l'islam-christianisme, et ensuite également que la Turquie pourrait en profiter pour avoir une meilleure place pour entrer dans l'Europe. Il est vrai que le pape, il n'a pas une armée ni de relations commerciales avec la Turquie, mais il a quand même une forte influence sur la politique en Europe, et donc la Turquie devra en profiter pour avoir le pape de son côté. Tandis que d'autres, les opposants, rappellent toujours, bien sûr, ces quelques paroles négatives et une espèce d'attitude anti-musulmane ou anti-turque. Et très souvent même, il y a eu pas mal de lettres anonymes et des menaces contre le pape pour faire un attentat contre lui parce qu'il n'avait rien à chercher en Turquie. Mais ce sont des petits groupes extrémistes, ou bien extrême-gauche, ou bien extrême-droite.
À votre avis, on accordera plus d'importance aux relations entre musulmans et chrétiens qu'aux tentatives de restaurer l'unité entre les chrétiens lors de cette visite?
Les Turcs, eux, voient surtout leur point de vue, donc les relations islamo-chrétiennes ou bien Turquie-Europe. Ils ne s'occupent pas beaucoup des relations œcuméniques, c'est-à-dire les relations de l'Église catholique avec les Églises orientales.
Alors, Bartholomé Ier, ces jours-ci, a souhaité finalement que cette visite se passe le mieux possible, en déclarant tout simplement que tout le monde avait intérêt à ce qu'elle se passe le mieux possible, de part et d'autre.
Certainement. Et ça, c'est mon opinion, et c'est également l'opinion de la grande, très, très, très grande majorité des Turcs, qu'il s'agisse du simple peuple ou bien des dirigeants. Ils voudraient qu'il n'y ait pas d'incident. Et alors, bien sûr, les orthodoxes, soit grecs, soit arméniens, pour eux, c'est une occasion également d'avoir un rapprochement avec l'Église catholique.
Personnellement, quels sont vos contacts, vos rapports avec l'Église orthodoxe écuménique?
Je connais très bien le patriarche. Je l'ai vu plusieurs fois, on s'est parlé. Je connais ses secrétaires. Et donc, il y a de très bons rapports. Ça, c'est des choses personnelles. Mais aussi, d'une façon générale, l'Église catholique, les représentants de l'Église catholique ont de très bonnes relations avec le patriarche œcuménique, le patriarche grec orthodoxe, et aussi avec le patriarche arménien, arménien apostolique, qu'on appelle habituellement grégorien.
Disons qu'au quotidien, tout cela se passe bien, ça se passe peut-être moins bien lorsqu'on discute des problèmes de fond.
Ah, pour les problèmes de fond, ça, bien sûr. Là, il y a les questions dogmatiques et ecclésiologiques qu'il faut résoudre lentement. Et là, il faut du temps, certainement. Mais je crois que le fait qu'il y ait des bonnes relations au niveau du peuple et du clergé simple, c'est déjà un point très positif. Je me rappelle, il y a 2 ans, on a fait une visite au patriarcat. C'était un petit groupe d'assomptionnistes. Et le patriarche a appris que j'avais mon jubilé. Il est tout de suite sorti pour aller chercher un beau plat souvenir qu'il m'a offert à l'occasion du jubilé, ce qui est une chose quand même un geste important, pas pour moi, mais pour montrer les bonnes relations avec l'Église catholique.
Alors justement, l'importance des gestes, des symboles, cette visite de Benoît XVI, c'est important pour les Églises d'Orient.
Exactement, tout aussi important que les discussions au point de vue dogmatique. Il faut les deux, bien sûr, mais ce sont les bonnes relations qui préparent l'atmosphère sympathique pour les débats théologiques. Si déjà au point de départ, on va s'affronter comme ennemis, bien sûr, il n'y aura pas beaucoup de bons résultats. Mais si on se parle comme amis, on peut arriver à des résultats.
Alors venons-en aux vexations quelque part, aux difficultés, vous l'évoquiez tout à l'heure, aux difficultés administratives auxquelles sont soumis les chrétiens en Turquie. Tout le monde n'est pas à la même enseigne, mais finalement, il y a quand même des difficultés en général, autant pour les orthodoxes que pour les catholiques.
À la fois pour les orthodoxes et pour les catholiques. Tout d'abord, c'est une question pour les biens immobiliers. Et donc là, beaucoup de biens immobiliers, tant des catholiques et surtout des orthodoxes, ont été confisqués. Et c'est un des problèmes majeur. Pour l'Église catholique, tout d'abord, elle n'existe pas officiellement. Elle est ignorée. Elle n'est pas reconnue. La nonciature apostolique est considérée comme représentant de l'État du Vatican et non pas du Saint-Siège. Donc l'Église catholique n'a aucun droit juridique. Et c'est, je crois, un des problèmes majeurs qu'il faudra résoudre pour avoir de meilleures relations entre la Turquie et le Vatican et aussi entre la Turquie et les chrétiens en général.
Sur la question des propriétés de l'Église, il est aussi impensable en Turquie que les églises aient des séminaires.
Ce serait possible, mais il y a eu cette fermeture de l'école théologique de Halki, n'est-ce pas, il y a 35 ans, ou 70, ou 71, et on devrait pouvoir l'ouvrir puisqu'il y a des écoles pour imams, pourquoi pas des autres. Mais il y a toujours des conditions. Si la Turquie ne permet pas de rouvrir cette école théologique de Halki, ce serait un étouffement lent de l'Église grecque-orthodoxe. Ils n'auront plus personne de possibilité de former leur clergé, et donc lentement, elle disparaîtra. Est-ce que c'est cela que la Turquie attend? Je n'en sais rien.
On peut espérer, dès lors, que les discussions sur l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne puissent permettre ce genre de choses, où cette question religieuse est quand même très ressentie en Turquie, et c'est là que, notamment, le bât blesse.
Et de fait, ça je l'ai encore lu dans les journaux hier et aujourd'hui, les journaux turcs, le gouvernement voudrait bien le faire, mais il a peur de l'opinion publique. Parce qu'il dit, si on permet aux chrétiens ou aux catholiques ou autres de faire ceci ou cela, pourquoi pas aux musulmans? Si on permet au pape de prier à Sainte-Sophie, pourquoi pas aux musulmans? Si on permet au pape de faire ceci ou cela, pourquoi les musulmans n'ont-ils pas le droit de le faire? Et donc c'est cela qui est maintenant qui est devenu une espèce de pression sociale sur le gouvernement.
Est-ce que finalement c'est la question de la laïcité de la Turquie qui pose problème quelque part pour tout ça?
Certainement, certainement. Il y a depuis quelques jours, nous voyons une espèce de débat assez violent parfois entre les partis politiques au sujet de la laïcité. À cause d'une parole que le président de la République avait dit il y a une dizaine de jours, que être laïque, ça veut dire être un homme. Ça veut dire que tout le monde devrait être laïque. Seulement, la notion de laïcité est une notion assez élastique, du moins ici en Turquie.
Pour veiller à cette laïcité, l'armée turque...
Dans le passé, c'est vrai, l'armée est intervenue assez souvent. D'abord par des coups d'État, qui sont bien connus, aux 60, etc. Mais aussi, simplement, en publiant des mises en garde contre ceux-ci ou bien ceux-là. Mais depuis quelques années, elle est très discrète. Même si l'une fois l'autre, un officier fait une déclaration, d'une façon générale, c'est beaucoup moins bruyant, moins audible qu'il y a une quinzaine ou vingtaine d'années.
Quelle opinion avez-vous sur la liberté d'opinion, justement, en Turquie, la liberté d'expression, d'information?
Je ne pourrais rien dire à ce sujet. Je sais qu'il y a pas mal de discussions. Il y a certains sujets qui sont, pas officiellement, mais de fait, tabous, il ne faut pas en parler. Je ne donne pas d'exemple, tout le monde les connaît, je pense. Et donc, il y a bien sûr une liberté d'opinion, une liberté d'expression également. On peut avoir des problèmes, mais si quand le cas est présenté en justice, il est absous, parce que la liberté d'opinion et la liberté d'expression existent. Mais ça provoque des réactions de la part de la presse et de l'opinion publique.
Il y a donc des sujets en Turquie où finalement la majorité de la population exerce comme une autocensure.
Oui, exactement. Et même la presse fait une autocensure, c'est un fait. Parfois c'est inconscient, mais ça se réalise.
Personnellement, qu'attendez-vous de cette visite, au fait, de Benoît XVI?
cherche une amélioration de la situation des chrétiens en Turquie, tout comme j'ai dit tout à l'heure, au niveau administratif, des propriétés, un rapprochement entre la Turquie et les responsables du Vatican, du Saint-Siège, si vous voulez. C'est surtout cela. Et donc une meilleure entente entre les personnes, les populations et aussi les autorités. J'ai suivi facilement celle de Paul VI. J'étais même avec lui à Sainte-Sophie, à cette fameuse prière. Il y avait moins de monde que maintenant. C'était plus simple, je crois. La surveillance de part de la police était beaucoup moins stricte qu'actuellement, parce qu'il n'y avait pas cette menace d'attentat ni quoi que ce soit. On pouvait facilement approcher le pape, même de très près. Actuellement, je crois que ce ne sera pas possible.
Tout à l'heure, vous parliez du nombre de catholiques. Combien sont-ils, au fait, en Turquie et à Istanbul, surtout?
Les chrétiens, en général, donc l'ensemble, catholiques, protestants, orthodoxes, tous réunis, sont moins de 100 000, ça c'est sûr. Les catholiques, 8 000, 10 000 à peu près, à la fois catholiques latins et catholiques arméniens, parce qu'il y a aussi une église catholique arménienne qui comprend quelques 2 500, 3 000 fidèles.
Catholiques qui nous viennent d'ailleurs.
Oui, la plupart, les catholiques latins proviennent tous, à peu près tous, de l'étranger, mais qui sont venus il y a bien longtemps. Des îles de Grèce, ou de la Grèce elle-même, d'autres viennent d'Allemagne, de l'Irak, de l'Iran.
Mais aussi d'Afrique et d'Asie, notamment des Philippines, je crois.
Des Philippines, oui, il y a une forte communauté de Philippines. Ici à Istanbul, il y a aussi un groupe assez important à Ankara.
Quant à pratiquer sa foi, il n'y a aucun problème, je suppose, ou est-ce qu'il y a une discrimination?
Non, dans les écoles et dans les églises, nous sommes pleinement libres. Il n'y a aucun problème. On ne peut pas se plaindre du tout.